Septième couplet. L'embuscade. 1. Roland Deschain était l'ultime survivant de la dernière fratrie guerrière de Gilead, et ce pour une bonne raison. Fort de son étrange nature romantique, de son manque d'imagination et de ses mains redoutables, il avait toujours été le meilleur d'entre eux. À présent, il était attaqué par l'arthrite. Mais l'arthrite sèche n'avait pas gagné ses yeux et ses oreilles. Il entendit la tête d'Eddie cogner contre la porte dérobée au moment où il passait à travers. Et ce n'est qu'en s'accroupissant au tout dernier moment qu'il évita de se faire lui-même broyer le crâne contre le montant supérieur de la porte. Il entendit le chant des oiseaux, d'abord étrange et distant, comme des oiseaux entendus en rêve, puis soudain clair et réaliste, totalement réel. La lumière du soleil qui vint lui baigner le visage aurait dû l'aveugler complètement après l'obscurité de la grotte. Mais Roland avait plissé les yeux, les réduisant à deux minces fentes, à la seconde où il avait aperçu la lueur vive. Et il l'avait fait sans même y réfléchir. Sans ce réflexe, il aurait sans doute raté l'éclair lumineux circulaire situé à 2 heures. Lorsqu'ils atterrirent sur le sol tassé, assombri par l'huile. Eddie serait mort sans l'ombre d'un doute. Peut-être seraient-ils morts tous les deux. D'après l'expérience de Roland, il n'y avait que 2 choses pour briller de cette façon particulière. Les lunettes et le viseur d'une arme à feu. Le pistolero saisit Eddie sous le bras aussi inconsciemment qu'il avait plissé les yeux pour protéger ses pupilles de l'afflux de lumière blanche. Il avait senti les muscles du jeune homme se contracter quand leurs pieds avaient quitté le sol, jonchés de cailloux et d'ossements de la grotte de la porte, et se relâcher lorsque la tête d'Eddie était entré en contact avec le montant de la porte dérobée. Mais Eddie grognait, essayait toujours de parler. Aussi était-il au moins partiellement conscient. « Eddie, à moi !» rugit Roland en se remettant sur pied tant bien que mal. Une douleur proche de la torture lui déchira la hanche droite et fusa jusqu'à son genou. Mais il n'en montra rien. Il y prit à peine garde même. Il traîna Eddie en direction d'un immeuble, quelconque, et passa devant ce qu'il reconnut comme étant des pompes à essence. Elles portaient l'inscription « Mobile » au lieu de « Citgo » ou Sunoco, 2 autres noms familiers pour le pistolero. Eddie était à peine conscient. Sa joue gauche dégoulinait de sang, coulant d'une lacération au cuir chevelu. Néanmoins, il fit redémarrer ses jambes du mieux qu'il put et gravit les 3 marches en bois de ce que Roland identifia comme une épicerie générale. Elle était largement plus petite que celle de Touk, mais à part ça, assez semble. Un claquement de fouet éclata quelque part derrière eux, venant de la droite. Le tireur était assez près pour que Roland soit sûr, s'il entendait la détonation, que l'homme à la carabine avait manqué son coup. Quelque chose fila à 2 centimètres à peine de son oreille, avec un son parfaitement limpide. Mizz! La porte vitrée de la petite épicerie éclata vers l'intérieur de la boutique. L'enseigne accrochée. Nous sommes ouverts, venez donc nous rendre une petite visite. » Sauta et se retourna.
« Ralente !»
La voix d'Eddie, faible et distante, semblait lui parvenir à travers de la bouillie.
« Ralente, qu'est-ce que... qui... ouf !»
La dernière exclamation de surprise lui échappa au moment où Roland l'étala par terre dans la boutique avant de s'affaler sur lui de tout son long. Les claquements de fouet reprirent de plus belle. Il y avait dans les parages un artilleur avec une arme extrêmement puissante. Roland entendit quelqu'un s'exclamer. « Bordel, laisse tomber ça, Jack !» Et quelques secondes plus tard, un fusil à rafale. Ce qu'Eddie et Jake appelaient une mitraillette se mit à tirer. De part et d'autre de la porte, les vitrines crasseuses explosèrent en éclats de verre acérés. Les prospectus qui se trouvaient derrière, des dépliants touristiques pour ce que Roland put en voir, volèrent. Deux femmes et un homme d'âge mûr étaient les seuls clients dans la boutique. Tous trois se tournèrent vers l'entrée, vers Roland et Eddie. Et le pistolero lut sur leur visage cet air d'éternelle incompréhension du civil sans armes. Roland le comparait parfois à cet air ahuri des mangeurs d'herbe. Comme si ces gens, ici ou à Calabrin Sturgis, ils ne voyaient pas grande différence, étaient non pas des hommes, mais des moutons.
« À terre !»
brailla Roland, toujours affalé sur son compagnon, à demi conscient et hors d'haleine. « Pour l'amour de vos dieux, couchez-vous !» L'homme d'âge mûr, qui portait une chemise à carreaux en flanelle malgré la chaleur ambiante, lâcha la boîte de conserve qu'il tenait à la main, avec une étiquette représentant une tomate, et se jeta à terre. Les deux femmes n'eurent pas son réflexe, et le tir de mitraillette suivant les tua toutes les deux, trouant la poitrine de la première et scalpant la deuxième. La femme au torse perforé s'effondra comme un sac de grains. L'autre fit deux pas à l'aveuglette en direction de Roland, le sang jaillissant de son crâne ouvert comme de la lave d'un volcan en éruption. À l'extérieur, deux autres mitraillettes ouvrirent le feu, emplissant le ciel de leur vacarme et zébrant l'air au-dessus d'eux de limaces incandescentes et meurtrières. La femme sans tête fit deux tours sur elle-même en un ultime pas de danse, les bras battant l'air, puis s'écroula. Roland chercha son pistolet à tâtons et se réjouit de le sentir dans son holster. Le contact rassurant de la crosse de bois de Santal. C'était toujours ça de réussi. Il avait gagné son pari. Eddie et lui n'étaient certainement pas venus va-à-dash. Les artilleurs les avaient vus et bien vus. Plus encore, ils les attendaient.
« Allez, bougez-vous !» hurlait une voix. « Bougez-vous, bougez-vous ! Leur laissez pas une chance de trouver leur feu ! Bougez-vous, espèce de Katsaros !»«
Eddie !» rugit Roland. «
Eddie, il faut que tu m'aides, maintenant !»
Tout
assourdi, perplexe, Eddie le fixait avec un seul œil, le droit. Le gauche était momentanément noyé dans le sang qui coulait de sa blessure au crâne. Roland tendit le bras et gifla Eddie assez fort pour faire gicler du sang de sa chevelure.
« Des écumeurs, venus nous tuer, tuer tout ce qui bouge !»
L'œil visible d'Eddie s'éclaircit. Très vite, Roland perçut l'effort que ça lui coûtait, non pas de retrouver ses esprits, mais de les retrouver aussi vite. Et cela en dépit des élancements monstrueux qui devaient lui marteler la tête. Et s'autorisa quelques secondes pour mesurer sa fierté à l'égard du jeune homme. Il était de nouveau Cuthbert Allgood. Cuthbert à s'y méprendre.
« Qu'est-ce qui se passe, bordel ?»
s'exclama quelqu'un d'une voix fêlée et pleine d'excitation.
« Mais qu'est-ce qui se passe, bordel de bordel ?»«
À terre !»
fit Roland sans même regarder. « Si vous tenez à la vie, couchez-vous !»«
Fais ce qu'il dit, Chip !»
répondit quelqu'un d'autre, sans doute l'homme à la boîte de conserve décorée d'une tomate. Roland se mit à ramper parmi les bris de verre de la porte. Sentant la piqûre des éclats qui lui coupaient les phalanges et les genoux, mais s'en moquant. Une balle siffla près de sa tempe. Roland l'ignora elle aussi. Dehors, la journée était magnifique. En arrière-plan, il apercevait les deux pompes mobiles. D'un côté était garée une vieille voiture, sans doute celle d'une des deux clientes, qui n'en aurait jamais plus l'usage, ou de monsieur chemise en flanelle. Au-delà des pompes et de l'asphalte graisseux du parking, il vit une petite route pavée, et de l'autre côté, un petit groupe d'immeubles d'un gris uniforme. L'un portait un panneau indiquant « Mairie », l'autre « Brigade des pompiers d'East Stoneham ». Le troisième, le plus grand, était le garage de la ville. Les parkings devant les immeubles étaient aussi bitumés, métallés selon le terme de Roland, et un grand nombre de véhicules y étaient actuellement garés, dont l'un de la taille d'un gros chariot Buca. De derrière déboulaient plus d'une demi-douzaine d'hommes, au pas de charge. Roland reconnut l'un d'eux à la traîne. Il s'agissait de l'horrible bras droit d'Enrico Balazar, Jake Andolini. Le pistolero avait vu cet homme mourir, blessé par balle, puis dévoré vivant par les omarstruosités carnivores qui peuplaient les eaux peu profondes de la mer occidentale. Pourtant, il était de retour. Parce que des mondes infinis tournaient autour de l'axe de la tour sombre, et il se trouvait dans un autre. Pourtant, un seul de ces mondes était vrai. Un seul dans lequel les choses étaient achevées, dans lequel elles restaient achevées. Peut-être était-ce celui-là, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas le moment de s'en préoccuper. Se redressant sur les genoux, Roland ouvrit le feu, réamorçant le chien de son revolver de la tranche de sa main droite osseuse, visant d'abord les types avec leur fusil à rafale. L'un d'eux tomba raide mort sur la ligne blanche centrale de la route, le sang bouillonnant hors de sa gorge. Le deuxième, un trou entre les yeux, s'envola vers l'arrière jusqu'au bord poussiéreux de la route. Et soudain, Eddie était à côté de lui, lui aussi en appui sur les genoux, rechargeant l'autre revolver de Roland. Il rata au moins deux de ses cibles, ce qui n'avait rien d'étonnant, étant donné son état. Trois autres tombèrent sur la route, deux morts et le troisième hurlant.
« Je suis touché! Jake, aide-moi! Je suis touché au bide !»
Roland sentit qu'on lui attrapait l'épaule. Sans doute un type qui n'avait pas conscience du danger qu'on courait à faire une chose pareille à un pistolero, surtout en pleine fusillade.
« Monsieur, bon sang, qu'est-ce... »
Roland jeta un regard rapide. Vit un type d'une quarantaine d'années portant une cravate et un tablier de boucher. et il eut le temps de se dire « Un commerçant, sûrement celui qui a indiqué la poste au père, avant de le repousser violemment en arrière. » À peine une seconde plus tard, du sang jaillit de la partie gauche de la tête du type. Une éraflure, rien de grave, du moins pour l'instant. Mais si Roland ne l'avait pas poussé, Eddie rechargeait. Roland en fit autant, un peu moins rapidement, du fait de ses deux doigts manquant à la main droite. Deux des écumeurs survivants s'étaient mis à couvert derrière l'une des vieilles voitures, garées de leur côté de la route. Trop près, pas bon. Roland entendit le vrombissement d'un moteur à l'approche. Il se retourna vers l'homme qui avait eu la présence d'esprit de se jeter à terre quand Roland le lui avait ordonné, lui évitant ainsi de connaître le même sort que ces dames. « Vous !» lui lança le pistolero. « Vous avez une arme ?» L'homme en chemise de flanelle secoua la tête. Il avait les yeux d'un bleu éclatant. Apeuré à ce que put voir Roland, mais pas paniqué. En face de ce client, l'épicier se tenait assis, les jambes écartées, contemplant avec une stupéfaction écœurée les gouttes de sang qui venaient dessiner une auréole sur son tablier blanc. « Hé, l'épicier, vous avez une arme ici ?» demanda Roland. Avant que le commerçant ait pu répondre, en était-il même capable, Eddie saisit Roland par l'épaule.
« Charge de la brigade légère !» dit-il.
Les mots étaient un peu mâchés. « Charge de la brigade légère !» Mais Roland n'aurait pas compris l'allusion, de toute façon. L'important... c'était qu'Eddie avait repéré six autres hommes traversant la route en courant. Cette fois-ci, ils s'étaient dispersés et zigzagués d'un côté à l'autre de la route.
« Vaille, vaille, vaille !»
glapissait Andolini dans leur dos, en agitant les mains dans l'air.
« Bon Dieu, Roland, c'est Trix Postino !»
Trix trimballait une fois de plus une arme gigantesque. Mais Eddie n'était pas sûr qu'il s'agissait de son M16 énorme, sa merveilleuse Rambo-machine. Quoi qu'il en soit, il n'eut pas plus de chance ici que lors de la fusillade à la tour penchée. Eddie fit feu et Trix s'affala sur l'un des types déjà étendus sur la route, leur tirant toujours dessus avec son fusil d'assaut dans sa chute. Ce n'était sans doute là rien de plus héroïque que quelques spasmes des doigts, les signaux ultimes envoyés par un cerveau mourant. Toujours est-il que Roland et Eddie s'aplatirent une nouvelle fois au sol, et les cinq hors-la-loi restants se jetèrent derrière les véhicules au bord de la route. Véhicules dans lesquels ces types étaient arrivés. Roland le savait, et serait bientôt en mesure de transformer cette petite boutique en stand de tir, le tout sans prendre trop de risques. Tout ça ressemblait trop à ce qu'il avait vécu à Jericho Hill. Il était temps de battre en retraite. Le bruit de moteur s'intensifiait. Un gros moteur, tractant un gros chargement, à en juger par l'ampleur du son. À gauche de l'épicerie, en haut d'un promontoire, apparut un énorme camion chargé de troncs d'arbres géants. Roland vit les yeux du chauffeur s'écarquiller et sa mâchoire s'affaisser. Et quoi de surprenant là-dedans? Là, devant cette petite épicerie de campagne, où il avait l'habitude de venir boire une bière à la fin d'une longue journée de canicule dans les bois, gisait une demi-douzaine de cadavres sanguinolents. éparpillés sur la route comme des soldats tués sur le champ de bataille. Et c'est exactement ce qu'ils étaient. Roland le savait trop bien. Les freins avant du gros camion hurlèrent. De l'arrière monta la fumée des freins à air comprimé, comme le souffle d'un dragon furieux. Le tout accompagné du crissement de pneus monstrueux se bloquant d'abord, puis laissant sur la surface métallée de la route de larges bandes noires calcinées et fumantes. Sur le dos du monstre, le chargement de plusieurs tonnes se mit à déraper de côté. Roland vit des éclats de bois voler des troncs et s'éparpiller dans l'air, tandis que de l'autre côté de la route, les hors-la-loi continuaient de tirer sans y prêter attention. La scène avait presque quelque chose d'hypnotique, comme si l'on regardait l'une des bêtes ignobles d'Eld débouler du ciel avec ses ailes en feu. L'attelage sans chevaux du camion roula sur le premier cadavre. Des entrailles volèrent en chapelet vermillon et vinrent éclabousser la poussière du bas-côté. Des bras et des jambes furent arrachés. Une roue écrabouilla la tête de Trix Postino, et en explosant, son crâne imita le bruit d'un marron éclatant dans le feu. Le chargement du camion glissa de biais et commença à vaciller. Les roues, qui seraient arrivées à hauteur d'épaule de Roland, se mirent à creuser le sol, faisant voler des nuages de poussière sanglante. Le camion dériva devant l'épicerie avec une lenteur spectaculaire et majestueuse. Dans la cabine, on ne distinguait plus le conducteur. Pendant un moment, le monstre fit écran entre la boutique et le feu nourri, de l'autre côté de la route. L'épicier, Chip, et le client survivant, Monsieur Chemise en flanelle, contemplèrent le camion à la dérive, avec une expression semblable de stupéfaction impuissante. Le commerçant s'essuya distraitement une traînée de sang sur la tempe et l'envoya claquer au sol comme si c'était de la sueur. Sa blessure était plus grave que celle d'Eddie, estima Roland. Pourtant, il ne semblait pas en avoir conscience. Peut-être que ça valait mieux. « Sortie arrière !» lança le pistolero à Eddie. « Maintenant !»
« Excellente suggestion !»
Roland attrapa l'homme en chemise de flanelle par le bras. Le regard de l'homme se détourna immédiatement du camion pour se poser sur le pistolero. D'un signe de tête, Roland lui indiqua l'arrière de la boutique et le vieil homme acquiesça. Sa rapidité inconditionnelle était un cadeau inattendu. Dehors, le chargement du camion finit par se renverser, broyant littéralement l'une des voitures, ainsi que les écumeurs réfugiés derrière, espéra vivement Roland, répandant d'abord les rondins en haut de la pile, puis tous les troncs. On entendit un bruit épouvantable et interminable de raclements sur du métal, à côté duquel la fusillade faisait l'effet d'une musique d'ambiance.